français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu va commencer. Salut à vous et bienvenue à l'écoute de votre radio locale à la recherche du groove perdu, session numéro 333, une émission musicale à géométrie variable diffusée sur RDIWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence et sur Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, on continue le thème intitulé Un vent de révolte, où il est question de révolte passée et présente après les émeutes de Guadeloupe en mai 67. Le soulèvement de mai 68 en France métropolitaine. On s'intéresse cette semaine au conflit nord-irlandais, The Troubles, comme ils disent là-bas. Un conflit qui a fait partie de l'actualité brûlante jusqu'en 1998, date de la signature d'un traité de paix entre l'Angleterre, les unionistes nord-irlandais, le Sinn Féin, le parti politique irlandais prônant la réunification du pays, et l'IRA, le bras armé de la révolte nord-irlandaise contre l'occupant. Un conflit aux multiples ramifications, rebondissements, conséquences qui a marqué la mémoire collective nord-irlandaise. Je me souviens plus jeune être complètement largué quand je voyais des images à la téloche sur ce qui se passait là-bas, qui se fightait, qui se tuait, d'où venaient leurs querelles. Pourquoi tout ça? C'était un peu, voire très flou, alors que ça ne se passait pas très loin de chez nous. Chaque reportage ne rappelait pas les racines de ce conflit. Il était donc difficile de comprendre tout ça. Une ignorance personnelle que je m'efforce ici de combler à travers une heure d'histoire en musique. On va commencer l'histoire du jour par les racines du conflit. Il faut remonter très loin dans le passé avec la colonisation progressive de l'Irlande par la couronne d'Angleterre au XIIe siècle. L'installation anglaise se cantonne d'abord autour de Dublin. L'assimilation de ces colons anglais aux coutumes irlandaises est perçue comme dégradante par la couronne qui fait voter en 1366 les statuts de Kilkenny, établissement une ségrégation entre colons et indigènes. La véritable colonisation débute avec la dynastie des Tudors. Des terres sont confisquées dès 1556 en vue de créer des colonies de peuplement, les plantations, tandis que s'affirme le pouvoir anglais sur l'île. Dès la seconde moitié du XVIe, plusieurs révoltes éclatent, en partie contre la constitution de l'église anglicane, la religion officielle à partir de 1560. Cette rébellion contre les protestants est soutenue par les vieux anglais et les vieux écossais descendants des colons du XIIe et XIIIe siècle, restés fidèles au catholicisme. Malgré le soutien de Rome, les différentes rébellions échouent. Les terres de leurs chefs sont confisquées, relançant ainsi la politique de plantation. Ces nouveaux colons protestants s'installent en particulier dans la province du Nord-Est, l'Ulster, future Irlande du Nord. Entre 1695 et 1727 sont promulguées les lois pénales, un ensemble de discriminations économiques, sociales et politique vis-à-vis des catholiques. Ces injustices vont faire éclore les premiers mouvements nationalistes irlandais vers la moitié du 18e. Les premiers affrontements entre paysans catholiques et protestants en Ulster ont lieu, eux, vers la fin du 17e. Voilà le décor planté jusqu'au début du 19e. On va écouter un premier extrait documentaire très synthétique et vulgarisé, nous rappeler les racines de ce conflit jusqu'à la guerre civile irlandaise en 1922, c'est parti, tout de suite, à toutes.
Au XIIe siècle, la petite île à côté de la grosse, ici, ne s'appelle pas encore l'Irlande. Mais il y a déjà des gens dessus, des clans qui n'ont pas grand-chose en commun et qui se battent régulièrement pour décider de qui dirigera les autres. En 1169, pour gagner l'une des batailles, l'un de ces clans fait appel à l'Angleterre. Les Anglais acceptent de venir lui prêter main-forte, mais sur leur lancée, ils en profitent pour envahir le pays. Enfin, disons plutôt qu'ils y installent leur drapeau, mais ne s'y attardent pas, car il voit alors l'île comme une grande prairie sans intérêt, peuplée de tribus primitives. 300 ans plus tard naît le protestantisme. L'Europe se déchire. Entre d'un côté, en gros, les partisans du pape, qu'on appelle les catholiques, de l'autre, ceux qui n'aiment pas le pape, les protestants. Les Anglais, pour faire vite, deviennent protestants. Les Irlandais, eux, restent catholiques, en partie parce qu'ils ne veulent pas faire comme les Anglais. Du coup, l'Angleterre a peur que les Irlandais fassent alliance avec les grands bastions du catholicisme en Europe, l'Espagne et la France. Les armées de ces deux pays pourraient s'installer en Irlande, ce qui constituerait une grosse menace à 100 km des côtes britanniques. Alors, pour se protéger, les Anglais décident de coloniser l'Irlande pour de vrai, en confisquant des terres, notamment dans le nord-est du pays. Les Irlandais catholiques, cette fois, disent non. Mais ils sont écrasés. Et les Anglais leur imposent un régime très répressif. Deux siècles plus tard, l'Irlande, qui se nourrit principalement de pommes de terre, est frappée par une tragédie affreuse. Les pommes de terre tombent malades. Les plants ne donnent plus rien. Résultat, les Irlandais n'ont plus rien à manger. 1 million d'entre eux meurent de faim et 1 autre million quittent le pays. En tout, c'est presque 1/4 de la population irlandaise qui disparaît. Or l'Angleterre, qui est alors l'une des nations les plus riches au monde, ne fait quasiment rien pour aider ce peuple qui meurt de faim.
If the government provides food, we would be creating a country of dependence. Why should a man struggle to earn his living while his neighbor lives in idleness?
Cela contribue à envenimer les relations. Presque 70 ans plus tard, en 1916, les Anglais sont empêtrés dans la Première Guerre mondiale. Les Irlandais décident d'en profiter en lançant ce qu'on a appelé l'insurrection de Pâques, une tentative de mettre en place une république irlandaise. Les Anglais répliquent en bombardant Dublin. 450 morts. À partir de là, les Irlandais sont plus déterminés que jamais. Et 3 ans plus tard, c'est la guerre.
And this shall help them towering. Oh, Rochenaba, how are ya? Oh, Rochenaba, how are ya? Oh, Rochenaba, how are ya? And this shall have done towering.
Sinn Féin, parti politique soutien du nationalisme irlandais, remporte une large victoire électorale lors des votes de décembre 1918, refusant de siéger au palais de Westminster. 26 de ses 105 députés se réunissent au Parlement à Dublin et proclament l'indépendance de la République d'Irlande le 21 janvier 1919. Le jour même ont lieu les premiers affrontements. L'Irish Republican Army, IRA, réorganisation des Irish Volunteers, organise la lutte armée contre les forces britanniques. Une trêve bilatérale est acceptée en 1921 et le 6 décembre, Michael Collins et Arthur Griffith signent le traité anglo-irlandais partageant l'île entre l'Irlande du Nord et l'État libre d'Irlande. Bien qu'accepté par le Parlement, le traité est refusé par la majorité des Volunteers de l'IRA. Une partie intègre l'armée officielle tandis que l'autre, opposée au traité, continue le combat. Le 28 juin 1922 éclate la guerre civile entre les anciens compagnons d'armes. C'est une période maudite, mise en scène notamment dans le film de Ken Loach, Le Vent se lève. Petite explication sur cette guerre civile, ses protagonistes, son déroulement. C'est le premier extrait d'un reportage en deux parties qui fut diffusé sur France 3, intitulé Irlande, Irlande au pluriel, les racines de la violence. On écoutera ensuite Dominic Behan, Come Out Your Blacks and Towns. A tout.
Arthur Griffith, Premier ministre. Et Michael Collins. Ils ont formé le premier gouvernement de l'État libre. Les visages sont graves. Héros de l'indépendance, mais réaliste, Michael Collins a, comme Griffith, accepté la partition, contre l'avis de De Valera. De Valera, furieux, démissionne de la présidence du Parlement et quitte le Sinn Féin. Les compagnons sont divisés. C'est la scission. Les élections suivantes sont l'occasion d'un affrontement violent. De Valera, contre la partition et la division de la terre d'Irlande. Et Collins, c'est le prix à payer pour la liberté. Michael Collins et le Sinn Féin gagneront les élections. Mais De Valera refuse de se plier. La parole est aux armes. Aux extrémistes de l'IRA, décidés avec De Valera à reconquérir militairement le Nord. Le 22 juin 1922, Rory O'Connor, chef des extrémistes de l'IRA, donne l'ordre d'occuper le palais de justice à Dublin. Mais cette fois, les canons sont irlandais. C'est la toute nouvelle armée de l'État libre qui assiège, puis écrase les rebelles. Une lourde défaite pour l'IRA. En fait, le début d'une guerre civile qui enflamme toute la province. Au cours d'une embuscade comme celle-ci, Michael Collins sera tué sur la route de Cork. La guerre civile durera un an, faisant plus de 1000 morts, ravageant à nouveau les récoltes et l'économie. Finalement épuisés, De Valera et ses partisans devront rendre les armes, vaincus et jetés en prison.
I was born on a Dublin street where the loyal drums the beat and those loving English feet they walked all over us. And every single night when me dad would come home tight, he'd invite the neighbours out with his chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Come let us hear you tell how you slandered great Parnell when you thought him well and truly persecuted. Where are the sneers and jeers that you loudly let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Come tell us how you slew them old Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears and bow and arrows. How bravely you faced one with your 16-pound gun, and you frightened them damn natives to the marrow. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Now the time is coming fast, and I think them days are here when each English Shawnee and he'll run before us. And if there'll be a need, then our kids will say Godspeed with the verse or two of singing this fine chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra.
In 1906, take the orange, white and green bombard Dublin town.
Le cessez-le-feu qui mettra fin à la guerre civile en 1923 ne mettra pas fin pour autant aux tensions qui continue de dégénérer ponctuellement en Irlande du Nord. Le peuple irlandais, en majorité catholique, très paysan, pauvre dans cette période du milieu du XXe, reste très différent des descendants des colons anglais protestants plus riches, et cette discrimination se traduit même dans les droits civiques, car certains hommes riches et protestants peuvent même voter plusieurs fois lors d'une même élection. Cette situation va perdurer jusque dans les années 60, où on voit apparaître, comme aux États-Unis, des mouvements réclamant les mêmes droits pour tous, noirs et blancs aux États-Unis, protestants et catholiques en Irlande du Nord. Rappel de ce contexte nord-irlandais dans les années 60 avec ce deuxième extrait du reportage Irlande, les racines de la violence, action.
Au diable les papistes. Ici, depuis la partition, les lois sont faites par des protestants pour des protestants. Un véritable apartheid qui commence à l'école. École pour les protestants, école pour les catholiques. Chacun dans son camp, pour la vie. Écartés de l'administration et de tous les emplois publics, les catholiques le sont aussi de l'université et de tous les rôles actifs de la vie économique. Pour travailler et vivre normalement, la plupart sont condamnés à l'exil.
We must face the fact that the main difference between Northern Ireland and South Africa is the fact that we, the native population, are not black.
We are not regarded as equals of the others in the city. They try to make us feel and do everything in their power to ensure that we feel that we are second-rate citizens.
Citoyens de second rang. Les catholiques subissent chaque été les tambours et les fifres des orangistes comme une douloureuse provocation. La mémoire des uns n'est pas la mémoire des autres. Le son des tambours rappelle aux uns qu'ils ont été vaincus, colonisés, privés de leurs terres depuis deux siècles par les autres. Et aux autres, qu'il faut rester vigilant. Ne pas céder d'un pouce ce qu'ils ont gagné. Mais en 1965, l'opinion commence à fléchir. Terence O'Neill, Premier ministre, est un modéré. Réaliste, partisan d'une politique plus souple et plus généreuse avec les catholiques, il sait aussi qu'il est grand temps pour les deux gouvernements, celui de Dublin et celui de Belfast, qui s'ignoraient depuis 40 ans, de se reconnaître et de se parler. Sean Lomas, Premier ministre d'Irlande, répond à l'invitation de Terence O'Neill, Premier ministre de l'Ulster. Une rencontre et une poignée de main qui provoquent aussitôt la colère du plus intransigeant des intégristes protestants, le révérend Ian Paisley. Pour le droit au logement et le droit au travail, pour l'égalité des votes et la fin des lois de ségrégation, les catholiques manifestent. Ceux qui, 30 ans plus tard, seront toujours les principaux leaders, sont déjà là. Manifestation pacifiste et résolument non violente sur le modèle des marches pour les droits civiques en Amérique et contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais le 5 octobre, à Londonderry, les policiers, tous des protestants ultra, chargent. La scène se déroule devant la presse et les télévisions étrangères. La violence faite aux droits élémentaires des catholiques d'Irlande du Nord est désormais connue du monde entier.
In a station in the city, a British soldier stood talking to the people there, if the people would. Some just stared in hatred and others turned in pain, and the lonely British soldier wished he was back home again. Come join the British army, said the posters in his town. See the world and have your fun, come serve before the crown. The jobs were hard to come by and he could not face the dole, so he took his country's shilling and enlisted on the roll. For there was no fear of fighting, the empire long was lost. Just 10 years in the army, getting paid for being bossed. Then leave a man experienced, a man who's made the grade, a medal and a pension, some memories and a trade. Then came the call to Ireland, as the call had come before. Another bloody chapter in an endless civil war. The priests, they stood on both sides, the priests, they stood behind. Another fight in Jesus' name, the blind against the blind. The soldiers stood between them, between the whistling stones, and then the broken bottles that led to broken bones. The petrol bombs that burned his hands, the nails that pierced his skin, and wished that he had stayed at home, surrounded by his kin. The station filled with people, the soldier soon was bored. But better in the station than where the people wore. The room filled up with mothers, with daughters and with sons, who stared with itchy fingers at the soldier and his guns. A yell of fear, a screech of brakes, a shattering of glass. The window of the station broke to let the package pass. A scream came from the mothers as they ran towards the door, dragging children crying from the bomb upon the floor. The soldier stood and could not move, his gun he could not use. He knew the bomb had seconds and not minutes on the fuse. He could not run to pick it up and throw it out.
La recherche du groupe perdu, session numéro 333. On parle cette semaine du conflit nord-irlandais dont les racines profondes remontent au Moyen-Âge avec la colonisation anglaise de l'île. Encore une histoire de religion où le schisme entre protestants et catholiques est à l'origine des querelles incessantes depuis des centaines d'années. Encore une histoire de domination aussi, la domination d'un peuple par un autre qui se croit plus évolué et civilisé, en l'occurrence les Anglais. La chronologie de ce conflit nord-irlandais est évidemment très complexe et fournie en événements, mais on n'a qu'une heure ici, donc on fait vite, on reprend le fil de l'histoire. Les années 60, on s'était arrêté là, période de revendication pour les nord-irlandais catholiques. Ils ne veulent plus être des citoyens de seconde zone, ils veulent accéder au même logement, au même droit que les protestants. Des marches pacifistes sont organisées un peu partout, on leur tape dessus, comme à Londonderry en 68 pour la première fois, mais jusque-là, pas de tir direct sur la foule. Le 30 janvier 1972, le premier bataillon parachutiste tire sur une marche pacifique de 20 000 personnes près du quartier catholique de Belfast, le Bogside, prétendant riposter à des tirs de l'IRA alors qu'il semble que ses membres présents à la manifestation étaient venus sans armes. Là, le premier bataillon tire, le bilan est de 14 morts, c'est le Bloody Sunday. L'action de l'armée britannique fait rapidement l'objet de condamnations internationales, tandis que les catholiques nord-irlandais organisent grève et manifestations pour protester. Voilà comment cet événement est relayé par la télé française le lendemain, le 31 janvier 1972. On écoutera ensuite un morceau inspiré de cet événement, le Sunday Bloody Sunday de YouTube. C'est parti.
Irlande. Le sang a coulé à Londonderry hier après-midi, rien ne le laissait prévoir. C'était un dimanche comme tant d'autres dimanches. Il y avait une manifestation de jeunes catholiques comme il y en a eu tant et tant depuis 4 ans, depuis 68, depuis la reprise de la violence dans cette province britannique. Un cortège de jeunes catholiques, Bernadette Devlin en tête, l'armée en face, et puis soudainement c'est le drame. Ce qui s'est passé hier nous rappelle à nous Français à plus d'un titre les pires heures de l'Algérie. La fusillade de la rue d'Isly, en mars 1962 notamment, ce qui ne veut pas dire que l'Ulster va maintenant trouver son indépendance. Les images que nous envoie la BBC, commentées par George Peter.
Pour les catholiques, ce dimanche est presque un jour de fête. Du moins, c'est comme ça que cela commence. Tout commence dans le calme. Est-ce un jeu? Alors que les catholiques bravent l'interdit qui, depuis plusieurs semaines, pèse sur toutes les manifestations, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Ce dimanche, ils sont 10 000, peut-être 20 000. La marche est organisée pour protester contre l'internement administratif, c'est-à-dire l'arrestation arbitraire des gens jugés dangereux.
The march proceeded quietly enough through the Catholic districts, and armed banded stewards kept the demonstrators from coming into close contact with troops who were manning barricades on the edge of their route.
Il est à peu près 3 heures de l'après-midi. Aucun heurt avec les forces de l'ordre pour l'instant.
It was after the procession got up to...
Et puis brusquement, les heurts éclatent. Il est 3h30 à peu près de l'après-midi. Les catholiques qui ont voulu emprunter une route, une rue, interdite par l'armée, lapident le service d'ordre.
The static confrontation between the troops and the demonstrators went on for several minutes.
Le face-à-face dure 10 minutes à peu près.
Finally, the troops took the offensive as men of the 1st Battalion, the parachute regiment.
Et puis c'est l'assaut, l'assaut donné par les troupes.
With armored cars in support to arrest as many rioters as they could lay their hands on.
Des engins blindés et des hommes du 1er bataillon du régiment de parachutistes, des hommes apparemment effrayés par cette tâche. À 4 heures de l'après-midi, on n'a pas encore tiré. Puis à 4h05, un premier coup de feu. On ne sait pas qui a tiré. L'armée réplique. Il y a 13 morts par balle et 50 ou 60 blessés.
I can't believe the news today. My song for you this evening, it's not to make you sad, not for adding to the sorrows of this troubled northern land. But lately I've been thinking, and it just won't leave my mind, to tell you of two friends one time who were both good friends of mine.
La réponse de l'IRA au Bloody Sunday se fera par des attentats, y compris sur le sol anglais. Une brève trêve intervient en 1975, mais le conflit reste meurtrier. Début des années 80, Thatcher est élue au Parlement anglais et est désormais l'interlocutrice principale côté anglais. Les conflits des H-blocks, brisons où sont enfermés les opposants politiques nord-irlandais, s'intensifient, contribuant à donner une audience internationale au problème de l'Irlande du Nord. En janvier 80, les prisonniers républicains font paraître leurs revendications. Une première vague de grève de la faim intervient en octobre de la même année. Le 1er mars de 1981, Bobby Sands, officier de la PIRA, refuse de s'alimenter, lançant une seconde grève de la faim. D'autres prisonniers politiques se joignent au mouvement. Le 10 avril, Bobby Sands est élu député à la Chambre des communes, provoquant un fort remous politique et médiatique, mais il meurt le 5 mai. Le 11 juin, Kieran Doherty est élu, lui, député en Irlande, mais il meurt le 2 août. En tout, 11 prisonniers trouvent la mort durant cette grève de la faim, malgré les tentatives d'intervention de la Croix-Rouge, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Vatican et du gouvernement irlandais. Partout dans le monde se forment des comités de soutien aux grévistes et certains États, dont l'Iran, l'URSS et plusieurs anciennes colonies britanniques, critiquent l'action de la Grande-Bretagne. Bobby Sands, même s'il n'est pas le seul mort de cette grève de la faim, reste le symbole, le martyr de la lutte des Nord-Irlandais dans les années 80. Et on va écouter un portrait de lui, un portrait diffusé dans une émission sur France Culture. C'était le 31 mai 2014 dans la série Une vie, une œuvre. On écoutera ensuite quelques chansons qui ont été composées en l'honneur de sa mémoire. Parti.
Une vie, une œuvre, merci d'être là pour un numéro consacré au républicain irlandais Bobby Sands, né en 1954 et mort à 37 ans en prison d'une grève de la faim. Depuis la mort l'an dernier de Margaret Thatcher, le bilan de la Dame de Fer a été débattu avec acharnement jusque sur les bancs du conseil municipal de Paris. Des élus UMP ont proposé que l'on donne son nom à un square, ce à quoi d'autres conseillers de Paris ont répliqué en proposant d'attribuer plutôt à Bobby Sands une voix de la capitale. Tout le monde s'est finalement mis d'accord pour baptiser une rue du nom de Shakespeare, car il n'y en avait pas. Si les débats font rage en France, on imagine sans peine à quel point les plaies restent vivaces en Irlande du Nord, où le nom de Bobby Sands ne laisse personne indifférent. Il aura fallu attendre 17 ans après sa mort pour qu'un traité de paix soit conclu. C'était en 1998 et le Premier ministre s'appelait Tony Blair. L'œuvre de Bobby Sands, c'est avant tout son engagement, mais il a aussi rédigé de nombreux poèmes et ce sont les deux facettes de cet homme que nous détaillent aujourd'hui Louise Hénaff et Charlotte Roux, lesquels sont allés à Belfast rencontrer l'un de ses camarades de détention et bien d'autres gens encore.
Bobby Sands, tout le monde savait qu'il partirait le premier. Il faut vous imaginer ce que c'était lorsqu'il est mort. La ville était en deuil depuis plusieurs jours. C'était une ville noire. Il y avait des drapeaux noirs partout, les drapeaux du deuil. Dans Falls Road, la grande artère républicaine de Belfast, il y avait la date. Chaque matin à l'aube, un jeune changeait. 40 jours, 41 jours, 42 jours. Et on passait devant ces jours qui s'égrenaient comme ça, tout le temps, tout le temps. Il y avait des femmes qui priaient, il y avait des femmes qui priaient dans la rue, à genoux, sous la pluie, au carrefour. Il y avait des rosaires, il y avait des chapelets, il y avait... Tout le monde attendait. Le pape lui avait offert un petit chapelet d'or. Le pape et la religion catholique qui excommuniaient les membres de l'IRA, parce que tu ne tueras point. Ben même le pape avait offert ce petit chapelet, tout le monde savait que ça allait finir, le problème c'était quand. Il était élu, rien n'avait bougé. Il y avait eu ce fameux « no, no, no » de Thatcher. « Je ne céderai pas. Terrorist, our terrorist, our terrorist. »
À 27 ans, Bobby Sands va mourir. C'est maintenant inévitable.
On ne s'attend pas
ici à ce que Bobby Sands arrête sa grève de la faim.
En Irlande du Nord, l'agonie du député Bobby Sands continue d'être l'objet d'une guerre psychologique entre l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, et le gouvernement britannique. L'extrémiste irlandais, qui en est à son 63e jour de grève de la faim, réclame toujours pour lui et ses compagnons le statut de prisonnier politique. Rappelons que Bobby Sands a été condamné à 14 ans de prison pour port d'armes. Il apparaît farouchement déterminé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, pour obtenir satisfaction. Or, cette issue fatale semble imminente et la police et l'armée se préparent déjà à la vague de violence qui ne manquera pas de déferler quand Bobby Sands sera mort.
Depuis le début de l'histoire irlandaise, les grèves de la faim sont une tradition. Elles se sont toutes terminées par la mort du gréviste ou par sa victoire. Or, de victoire, cette fois, il n'y aura pas. Malgré toutes les démarches internationales, Margaret Thatcher, à Londres, a décidé de ne pas céder. Elle juge moins dangereux à long terme l'affrontement qui pourrait suivre la mort de Bobby Sands que la reconnaissance d'un statut qu'elle assimile à celui des prisonniers politiques. Toute l'Irlande du Nord, inquiète, a les yeux tournés vers Lancash. J'y étais hier. L'aspect évoque davantage un camp de concentration qu'une prison, avec ses rangées de barbelés, ses chiens, ses miradors, ses projecteurs et ses baraques en tôle ondulée. Là, vivent en ce moment 3000 prisonniers. Que tout à l'heure ou demain, on sorte de là le corps décharné de Bobby Sands et, semaine après semaine, de ses 3 camarades, et la colère enflammera les corons catholiques. Dans les quartiers protestants, personne ne cache qu'on ne lui laissera pas le champ libre.
There is no such thing as political murder, political bombing or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. We will not compromise on this. There will be no political status.
À partir de 1991 débute un processus de paix entre les deux camps, un processus long troublé par des heurts, des attentats, mais qui aboutit finalement en 1998 à la signature d'un accord de paix, une victoire sur le papier qui sera suivie par un désarmement de l'IRA, mais les murs érigés dans Belfast pour séparer les deux communautés restent encore debout, un symbole mais qui traduit encore les tensions qui existent là-bas, les mentalités continuent encore d'être marquées par plusieurs décennies de conflits armés, comme le montre ce dernier extrait documentaire du jour, un reportage de France 24 diffusé en avril 2018.
Cette photo derrière moi a été prise il y a 20 ans, tout juste le 10 avril 1998. Après 30 ans de conflit, nationalistes et loyalistes nord-irlandais signaient les accords de Belfast. Depuis, la paix n'a jamais été remise en cause, mais les tensions sont loin d'avoir disparu. L'Irlande du Nord n'a plus de gouvernement depuis plus d'un an et la perspective du Brexit risque bien de remettre encore un peu plus en cause ce fragile équilibre. C'est le focus aujourd'hui, il est signé Hervé Amorik et Steve O'Reilly.
Jerry Kelly a grandi ici, dans les quartiers populaires de l'ouest de Belfast. Lorsque le conflit s'est embrasé dans les années 70, il a rejoint l'IRA.
Pour les gens de ma génération, qu'on le veuille ou non, il n'y avait aucune alternative. On avait essayé de manifester pacifiquement pour défendre nos droits. Mais pendant ce temps, les nôtres étaient abattus dans nos rues. L'armée britannique était dans nos rues. On est Irlandais. Et ils ont coupé notre pays en deux contre notre volonté.
Incarcéré pour des attentats meurtriers en Angleterre, Jerry Kelly a été libéré en 89. Il s'est alors engagé dans le processus de paix. Il a négocié l'accord de 1998. Élu, puis ministre, il a ensuite partagé le pouvoir avec ceux de l'autre camp, jusqu'à l'effondrement du gouvernement de Stormont l'an dernier. 20 ans après l'accord de paix, l'Irlande du Nord reste divisée.
Des grilles ont été ouvertes, des barrières ont été démontées, celle-ci est ouverte, mais le mur est toujours là. On espère qu'un jour il sera détruit, mais il faut avancer à la vitesse des gens qui vivent ici. Ça peut paraître déprimant et le processus ne va pas aussi vite que je le souhaiterais. Certes, on avance, mais il faut absolument que la réconciliation devienne effective.
Les républicains, comme Jerry Kelly, veulent l'unification de l'Irlande, mais de l'autre côté du mur, le quartier de Shankill reste fidèle à la couronne britannique. Winston Irvine œuvre à la réconciliation des communautés avec d'anciens prisonniers de l'UVF, un groupe armé protestant qui a abattu de nombreux catholiques avant de renoncer à la violence.
On est loin de la réconciliation. Il suffit de regarder notre situation politique actuelle. Pas de gouvernement, pas de partage du pouvoir à Stormont, pas de législature. On est en pleine inertie, en plein vide politique. Et c'est dangereux.
Ces jeunes gens, catholiques et protestants, visitent ensemble une exposition au musée d'Ulster. Pour eux, le conflit appartient à l'histoire. Ils sont nés à l'époque de l'accord, et ils apprécient cette chance.
Avant l'accord, les mentalités étaient différentes, plus sombres. Parler à ceux de l'autre bord était délicat et c'était mal vu, au point que parfois, les gens risquaient leur vie.
À Stormont, les deux principaux partis dans les deux camps, les démocrates unionistes côté protestant et Sinn Féin côté catholique, ne parviennent plus à s'entendre pour gouverner.
On est dans l'impasse parce que nos dirigeants politiques sont forcés de travailler ensemble alors qu'ils ne le veulent pas.
Vu que les gens ne meurent plus dans les rues, je pense que ceux qui se sont portés garants de l'accord du Vendredi Saint, la communauté internationale et les gouvernements britanniques et irlandais, ne s'investissent plus autant qu'avant. Collectivement, nous ne nous sommes pas montrés à la hauteur de l'accord du Vendredi Saint.
pour cette émission sur le conflit nord-irlandais de Troubles qui a animé la vie nord-irlandaise et anglaise également depuis le Moyen-Âge. Vous pourrez retrouver la playlist entière, les documentaires, les extraits, les chansons, tout ça sur le podcast www.rdwa.fr. La semaine prochaine, on change de pays, on change de continent, on sera en Europe et on parlera de la révolte récente des Gilets jaunes. Ça s'est passé en France, c'était en 2019. Et ça couvre encore, d'où l'intérêt d'en parler à travers une émission qui laissera la place aux artistes, aux chansons, dénonçant notamment la répression policière durant ces événements. Il sera également question de propagande d'État, comme en mai 68, de la décrédibilisation du mouvement, de tout ça à travers des chansons, des extraits de reportages, et peut-être un peu plus. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de ces premiers moments de chaleur, hein, puisqu'il fait un peu chaud. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour cette nouvelle émission de la série Un vent de révolte. Allez, à la semaine prochaine, c'était À la recherche du groove perdu, ciao.